incroyable. Le retour de Radio X.
Avez-vous compris?
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Les anticorps vont cuire.
Radio X. Expert en automobile de RPM. Voici Sam Lessard.
Monsieur Lessard, bienvenue.
Salut.
Bon, essayez de pas dire que t'es une vedette de la télé,
bon,
là,
ce bon, gars, bon,
là.
Bon.
On va essayer, faire des efforts, là.
C'est bon, ça.
Et puis, juste le dire comme ça, je sais pas si on en a déjà parlé dans le show, mais tu bientôt papa, là.
Bientôt papa, pour la première fois.
Je pensais que c'est ton deuxième, donc tu vis le baptême.
Oui, je vis le baptême, là. Ouais, la petite s'en vient en janvier. 15 janvier,
après
normalement.
Après, si tes nuits.
Parfait. Tu parles en connaissance de cause, toi, je pense.
Oui,
c'est ça.
4h15 du matin. Et c'est parti.
Ça donne bien, je te lève tôt, fait que c'est ça.
Je disais que moi, quand là, je vis le papy, là. Fait que moi, je donne du chocolat à mon petit-fils, là.
Hey, mon père était zéro sucre dans la vie. Mon père est rendu carré avec des F. Cadbury, puis papy gâteau, là.
Ben, toi aussi, t'es en train de virer de même. Oui. Je viens de même totalement.
Le rôle du grand-père n'est pas le même que le rôle de père. Hein?
Même non, plus soft.
C'est ça. Là, je m'étais pris des notes pour toi, là, un petit peu. Là,
un peu.
On va parler de voitures.
Oui. Ça doit.
Des chars.
On va faire ça en deux blocs.
Un volant, un moteur.
Le premier bloc, on pose des questions. On en a tous.
Ouais.
Et le deuxième bloc, ben, les auditeurs poseront des questions.
Ben oui, bien sûr.
Parce que ça va aller vite. Je vois le temps, là, ça va aller très, très vite.
Yes.
Veux-tu poser la première question, Jordan?
Oui, mais je veux vous juste entendre, Sam, sur l'histoire des véhicules volés, parce que c'est différent du Québec versus le reste du Canada. Puis quand on pense aux véhicules volés, évidemment, il y a le RAV4 qui nous vient en tête. J'imagine que le Civic est peut-être encore là-dedans. Mais est-ce que les palmarès ont bougé depuis les dernières années?
Ça bouge, mais on tourne toujours pas mal. Tu sais, dans les dernières années, c'est VUS, beaucoup. Qui se vend, évidemment, qui se vole, mais qui se vend aussi. Fait que, évidemment, des véhicules qui sont très vendus, se retrouvent beaucoup sur le marché. Il y a une demande outre-mer pour ce genre de véhicule-là, donc c'est très recherché. Puis on tourne pas mal toujours autour des mêmes marques. Toyota, Honda, quelques véhicules sud-coréens, du côté de chez Hyundai, notamment des Palisades, là, par exemple, des assez gros VUS. Puis certains véhicules américains, genre Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade, GMC Yukon, des pick-up, Ram 1500. Puis quand on pense aux VUS, mettons Toyota, RAV4, très, très volé, Highlander, très volé, Land Cruiser, 4Runner, Lexus TX, RX, NX, GX, les X finalement.
Puis ce qui est capoté là-dedans, Sam, c'est qu'il y a souvent des gens qui se font voler, exemple, un RAV4 par première fois. Puis on dirait qu'ils tombent dans le collimateur des voleurs de chars de 17. Là. Ils reviennent au bout d'un mois, tu sais, t'as retrouvé le char, puis là... Peut-être une deuxième, troisième fois, et après ça, t'es plus assurable.
Ouais.
J'ai entendu plein d'histoires cauchemardesques, surtout dans le coin de Montréal.
Oui, puis mais moi, j'ai déjà participé à un reportage qui était tourné par Nouveau, je pense, puis il racontait l'histoire d'un gars qui habitait ici, à Québec, qui s'est fait voler deux ou trois fois le même véhicule. C'est-à-dire, il s'est fait voler une première fois, il a été retrouvé, il en a repris possession.
Il y a une dame aussi dans la région de Montréal,
c'est
trois fois.
Il s'est fait revoler, puis une troisième fois, si ma mémoire est bonne, un moment donné, il lâchait-moi, tu sais. Bon.
Il a mis une barreau dans le volant, puis il se faisait revoler son char pareil.
Il y a plein de stratagèmes là, qui existent là, par les voleurs pour voler ces véhicules-là. Puis, tu sais...
Mais les corps policiers là, avaient promis de mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Là.
Ça a marché quand même, parce que quand on regarde, là, j'ai pas les chiffres en tête, là, mais il y a eu quand même une diminution des nombres absolus de vols qui se sont faits là, au Québec. Quand même, il y a eu des efforts. Il y a eu un sommet à Montréal, là, il y a un an et demi à peu près. Là,
tu vois, je l'ai ici, le vol de véhicules en baisse de 22% au Québec versus l'année passée.
Ben, c'est quand même beaucoup. Là. Oui, c'est quand même beaucoup, 22%. Tu sais, puis quand tu es consommateur d'un véhicule comme ça, tu te le fais voler deux puis trois fois, à un moment donné, t'en as soupé. Tu l'as dit, tes assurances, ça coûte les yeux de la tête. Ça te tente.
T'es plus assurable ou presque.
T'es plus assurable, puis tu veux plus ce véhicule-là. Tu sais, si ton Toyota Highlander, ton RAV4, ton Honda CR-V est volé, t'en veux plus. Puis, on parle du côté consommateur, mais moi, j'ai parlé avec des constructeurs automobiles. Au début, moi, je disais, ben les constructeurs sont contents, ils se font voler, ça leur en fait vendre un autre. Bien au contraire, les gens en veulent plus. Moi, si je me fais voler mon Highlander, mettons, là, une fois, puis deux fois, puis trois fois, quand je vais le changer, penses-tu me racheter un Highlander? C'est sûr que non.
Mais non,
je dis Highlander, mais ça peut être n'importe quel autre modèle. Là, mais un véhicule qui est prisé par les voleurs, les gens qui en ont un en veulent pas un deuxième.
Puis le nombre de patentes qu'on met dans les chars à cette heure, il me semble qu'on pourrait améliorer le côté vol de véhicule, parce qu'il me semble que c'est un peu basique encore, même que j'écoutais une couple de reportages là-dessus.
Ouais.
C'est pas mal plus facile, entre toi et moi, Sam, de voler un char avec une puce dans la clé dans à la place d'une vraie clé. Le stratagème est moins complexe pour les voleurs.
C'est sûr, mais en même temps, les gens apprécient tellement d'avoir une clé numérique numérique, pas numérique, mais une clé. Une puce dans leur poche. Tu mets la main sur la poignée, ça déverrouille, t'embarques dedans, tu peux essayer start, puis on est parti.
On veut plus revenir avec la clé.
Il y a une commodité qui est bien fun au quotidien. Ben oui. C'est bien moins plate que de sortir tout le temps la clé et rentrer ça dans ses rues. De toute façon, je pense que ça se vendrait pas. Là, si un constructeur revenait avec un véhicule qu'il faut que tu te débarres.
Je l'achèterais, moi, ça, mais le char basique avec les fenêtres manuelles.
À condition qu'il soit genre 12 000.
De recul. Ouais, ouais.
C'est ça. Le bon vieux, là.
Non, mais c'est parce qu'à cette heure, tu scrapes ta porte 10 000 piastres.
Ouais.
Pas grand chose.
Mais il y a ces bidules-là. Il y a des constructeurs qui mettent des systèmes pour rendre un peu plus complexes les ordinateurs à bord des véhicules, plus difficiles à craquer en bon français là, pour les hackers, pour rendre ça un petit peu plus difficile. Mais je veux dire, les constructeurs raffinent leur méthode pour protéger leurs véhicules, mais les malfaiteurs raffinent aussi leur méthode pour prendre des véhicules. Donc, c'est quasiment une course, là.
Monsieur Louis!
Yes! On le voit de plus en plus, des modèles qui s'enlignent vers des modèles un peu plus de nature. Il y a Subaru avec leur Wilderness, Nissan qui ont le Rock Creek, je sais qu'Honda aussi sur leur
Pilot. Ils sont tous là-dessus.
Hyundai aussi. Mais là, Hyundai veulent se lancer carrément dans un genre de Jeep, le cratère. Qu'est-ce que c'est ça?
Mais il était carré, le modèle.
Ben oui, c'est hot. Mais...
Ceux qui ont vu les Hyundai récents, on se rend compte que c'est un constructeur qui met beaucoup l'accent sur le style. On aime ou on n'aime pas. Si on voit un Ioniq 9, un Ioniq 5, par exemple, c'est un genre de véhicule que t'aimes beaucoup ou t'aimes pas du tout, mais chose certaine, t'es pas indifférent. C'est un peu la même chose avec ça. C'est un genre de VUS hors-route, genre style Jeep Wrangler, là, vraiment pour faire du hors-route très, très sérieux avec un style à la Hyundai. Là,
mais le monde achète ça pour se promener sur les autoroutes et en ville, c'est le problème.
C'est un statement. Aussi, avoir un Jeep ou même un Ford Bronco, il y en a beaucoup qui achètent ce genre de véhicule-là juste à cause de l'apparence ou de ce qu'ils ont de l'air quand ils conduisent, sans nécessairement exploiter toutes les qualités. Ça vient aussi avec une consommation d'essence très élevée, des assurances très chères, un entretien très élevé, mais ça, on y pense pas quand on pense à notre image, c'est ça. Mais il reste que, tu l'as bien dit, c'est très vendeur, les gens aiment ça. Moi, ça me surprend pas qu'Hyundai arrive avec un concept comme ça. Puis l'idée derrière un concept, c'est toujours la même chose. Le constructeur lance ça et étudie le comportement des gens qui vont voir le véhicule.
Parce qu'on le verra sûrement pas comme ça sur le marché.
Ben, on pourrait être bien surpris. Ben oui, parce que Hyundai, c'est le genre de constructeur qui va lancer un concept, qui va inspirer très, très fidèlement un véhicule de production.
Il n'y aura pas tant de modifications que ça.
Ben, ça, écoute, je ne suis pas dans la tête des designers, mais ça ne serait pas étonnant qu'Hyundai arrive avec quelque chose d'éclaté comme ça. Mais avant de se rendre là, évidemment, il étudie la réaction du public. Il aime-tu ça, il aime-tu pas ça, les réseaux sociaux, etc. Et c'est ce qui permet au constructeur ensuite de prendre une décision sur la commercialisation d'un produit. Les gens ont-ils été favorables au style, etc.? Est-ce qu'ils l'ont aimé? Le potentiel de vente est bon? On a-tu une motorisation qui a de l'allure pour mettre là-dedans? Bref, c'est vraiment un test pour les constructeurs quand ils mettent, quand ils développent des concepts comme ça. Là. Ouais.
En deux minutes avant d'aller à la pause, les robots taxis qui se lancent aux États-Unis sur les autoroutes.
Oui.
On s'en vient-tu vraiment vers ça? Puis je le souhaite.
Oui.
Parce que je pense qu'on a fait beaucoup de milles, de kilomètres, tout ça sans accident.
Énormément. Puis il y a plusieurs marques qui mettent l'accent là-dessus. Tu sais, robotaxi, Tesla, c'est un exemple.
Oui.
Des modèles Y qui sont modifiés. Ben en fait, pas tant modifiés que ça, parce que tous les modèles Tesla qui sont vendus, même ici au Québec, au Canada, sont équipés de tout ce qu'il faut pour la conduite entièrement autonome. Ça, il faut quand même le spécifier. Il y a plusieurs autres marques. Waymo, c'est un exemple, avec Google là-dedans aussi. Bref, c'est vraiment une filière qui est très, très développée aux États-Unis. La Silicon Valley, on met beaucoup l'accent là-dessus pour avoir justement développé les capacités de ces véhicules-là. Ça s'en vient plus que jamais. Puis les gens, sans doute qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà embarqué dans une Tesla.
Tous apprécié.
Oui, avec le full self-driving, c'est extrêmement impressionnant. Puis c'est un système qui se raffine semaine après semaine. Moi, j'en ai conduit un conduit, façon de parler. C'est lui qui
l'a regardé. Je
suis assis au volant, mettons, mais je touche à rien. Il y a peut-être 3 semaines, là, puis c'est vraiment capoté. Là. J'étais sur Louis XIV pour m'en aller sur Pierre-Bertrand là, pour tourner à gauche, puis il y avait du trafic qui s'en venait. Puis, tu voyais, la voiture hésitait, puis à un moment donné, elle dit, il y a une fenêtre, là, on crampe le volant, puis on pèse sur l'accélérateur, puis on passe. Puis, sérieux, c'est rapide comme moi, je l'aurais été, là. Pas d'hésitation, vraiment, c'est un système qui voit tout autour, prend des décisions qui sont réfléchies, qui ont vraiment de l'allure, et c'est très efficace.
C'est juste au niveau de la neige, nous, ici, que ça va se compliquer.
Oui, puis, tu sais, là, le système est vendu comme un système avec supervision nécessaire. Donc, le conducteur est toujours là. Il y a des capteurs qui vont s'assurer que le conducteur ne soit pas endormi ou n'ait pas eu de malaise, etc. pour qu'il soit toujours en mesure de reprendre le contrôle. tu sais, il y a aussi une composante légale à ça. S'il arrive un accident, la responsabilité revient à qui? Reviens-tu à Tesla, à Elon Musk, si on prend cette marque-là, là, ou elle revient au conducteur? Si le véhicule autorise que le conducteur dorme, il ne peut pas réagir, donc la responsabilité revient à qui? T'sais, c'est assez complexe cet aspect-là. C'est pour ça qu'ici, chez nous, dans plusieurs législations, c'est encore requis que les conducteurs aient une... les conducteurs aient une certaine supervision du comportement du véhicule. Mais si on revient à ce que tu dis, robot-taxi, il y a vraiment des secteurs dans des villes où les taxis se déplacent eux-mêmes. Tu peux appeler le taxi, il vient te rejoindre où t'es, t'embarques dedans, il n'y a pas de conducteur, puis il t'amène où t'as besoin d'aller, tu payes avec l'application et c'est réglé.
Je pense que c'était 1 million de mille roulés sans accident.
Puis au moment où on se parle, il y en a qui roulent, là, tu sais, puis ça va très bien, les gens les prennent. Tu sais, ce sont des bancs d'essai, mais à un moment donné, il faut se dire que ça va venir chez nous aussi, là. Vraiment assez répandu.
418-670-9098, réservez votre ligne téléphonique ou votre texto. Allez-y si vous voulez nous écrire. Au retour de la pause, Samuel répond à vos questions.
Le retour de Radio X.
C'est de la snoute. Avec D.H., Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Samuel Lessard, notre invité de RPM pour ce deuxième segment automobile. Et là, c'est les auditeurs qui posent les questions. 418-670-9098. Étant donné qu'il nous reste à peu près 5-6 minutes, on va y aller d'un blitz, mais texto, 418-670-9098. 418-670-9098. Posez vos questions à Samuel. Je pose la première. Voiture abordable en bas de 25 000, tu recommandes quoi?
Il n'y en a plus bien.
25 000.
Flambant neuf, il nous reste pas beaucoup de choix, mais Nissan Versa, c'est encore un choix. Puis éliminé pour 2026, donc dépêchez-vous. Il s'y en reste d'un coup, bonne chance. Sinon, Hyundai Venue, c'est un autre véhicule en bas de 25 000. Puis l'autre option, moi, que je recommande souvent aux gens, si vous êtes capable et tirez un peu le budget là, pour aller vous chercher genre une Hyundai Elantra, Kia K4, vous montez peut-être à 26 000, 27 000, mais vous avez les sièges chauffants, volant chauffant, des bons écrans à l'intérieur. Tu sais, ce que les gens recherchent, là, on l'a dans ces véhicules-là.
Un 2000 de plus ou un 2000-2005?
Qui vaut la peine, parce que c'est un véhicule plus agréable à conduire, meilleure tenue de route, plus facile à revendre aussi après. Là. C'est sûr que c'est pas toujours évident pour tout le monde là, d'étirer le budget, puis ça, je suis vraiment conscient de ça. Si on étire un peu trop, ben il y a toujours des véhicules usagés là, qui peuvent être intéressants. Dans ces genres de véhicules-là, ça garde quand même une valeur correct, mais on est capable là, pour 18-20 000 de se trouver un véhicule de 2-3 ans, encore en très, très bonne qualité, très bonne condition. Ça va durer longtemps. Une Corolla, par exemple, là, c'est pas tuable, ça. Là, vous achetez ça, vous avez à payer ça.
Hey, on parlait de vol de véhicule d'entrée de jeu, puis il y en a qui nous demandent les barres antivol sur le volant. C'est pas super bien réputé. Si tu verrais cette affaire-là, puis ben, y a-tu d'autres options pour se protéger d'un vol de char?
Oui, ça. C'est un effet dissuasif quand même pour les barres sur le volant. Mais tu sais, moi, il y a des gens que je connais qui y avaient mis ça comme dispositif anti-vol. Puis, ben les voleurs ont tout simplement coupé le volant pour enlever la barre.
Un buffer.
Puis c'est réglé. Puis ça prend pas une demi-heure. Là. C'est vraiment pas long. Fait que tu sais, ce qu'on recommande souvent, c'est une combinaison d'affaires. Fait que la barre sur le volant, oui, mais pourquoi pas un système tag, un marquage Sherlock, un blocage du port OBD2 là, en dessous du tableau de bord. Ça existe, ça aussi, pour empêcher qu'un ordinateur soit connecté, créer une clé, démarrer avec le véhicule. Tu sais, plein d'affaires de même. Votre clé à puce là, que vous avez dans vos mains, dans vos poches, là, ben, laissez-la loin de la porte d'entrée.
Ouais,
mettez-la dans une
case. Peut te la faire scanner.
Oui,
sinon,
tu peux te la faire scanner à distance. Ouais. Mettez-la dans ce qu'on appelle une boîte de Faraday qui va couper les signaux, par exemple. Il y a certains constructeurs aussi à vérifier dans le manuel du propriétaire, mais qui vont permettre, avec, mettons, une manipulation synchronisée de boutons, là, désactiver la clé. Fait qu'elle n'émettra plus de signal, elle ne pourra pas être clonée. Donc,
je t'écoute, là, puis je n'en reviens pas. Ouais. On est rendu là.
On est rendu là, puis si vous avez le budget, un garage, ça peut aider aussi.
On s'entend que les concessionnaires, ben, les marques automobiles devraient faire ça beaucoup plus rapidement quand il y a un vol de char. Ouais. La clé qui se descanne automatique après, puis le char ne peut plus rouler.
Oui, absolument. Il y a des applications mobiles maintenant. Tu peux contrôler ton auto à distance, le démarrer, débarrer les portes, etc. Mais il y a certaines applications mobiles qui permettent de localiser en direct il est où ton char, si le système est encore en fonction dans le véhicule, et qui permettent même dans certains cas d'arrêter le véhicule à distance. Okay. Ça peut être une façon aussi, mais c'est après coup. Ça ne prévient pas le vol, c'est après coup. Fait que faut quand même le savoir, ça. Ouais.
On veut t'entendre sur la Nissan Kicks 2026, Sam.
Oui, Nissan Kicks, ouais. On l'a présenté à RPM il n'y a pas tellement longtemps. Bonne amélioration par rapport à l'ancien modèle. Moi, je trouve que le moteur est trop faible, trop, c'est pas assez puissant pour le type de véhicule, surtout si on le prend 4 roues motrices. Et le prix, tu sais, les gens aimaient beaucoup l'ancien Kicks parce qu'il était pas cher, véhicule abordable, spacieux. Le nouveau, on n'est plus là. C'est vraiment un VUS sous-compact, 4 roues motrices, assez dispendieux. Il n'y a plus d'aubaine à faire avec un Kicks comme on avait auparavant. Pas un mauvais choix, mais moi, j'irais voir un Subaru Crosstrek, par exemple, un Honda Kona, dans la même catégorie, même gamme de prix, plus puissant, mieux fini à l'intérieur, plus intéressant globalement comme produit.
Que pensez-vous, M. Lessard, du Tesla Model X 2024?
Très bon produit. Il y a comme deux gammes chez Tesla. Tu as le X et la S, vraiment des véhicules plus chers, puis tu as la 3 et Model Y, les plus vendus, moins chers. Quand je dis il y a deux gammes, c'est que c'est vraiment une autre façon de concevoir les véhicules entièrement en aluminium. C'est vraiment conçu de façon extrêmement durable. Puis ces modèles-là, le Model X, là, c'est à l'origine de la Model S de 2012. Donc, quand même beaucoup d'expérience. Le constructeur les a raffinés, les a améliorés. Si vous avez le budget pour ce genre de véhicule-là, c'est parmi les meilleurs véhicules électriques dans cette gamme de prix.
Encore deux questions. L'avant-dernière, on veut remplacer notre Forester. C'est un 2019 qui s'use et rouille prématurément. Ah, il dit qu'il est bien déçu.
2019.
Oui, okay. C'est surprenant.
Ouais.
Puis il dit, qu'est-ce que tu me suggères dans la même catégorie? Je pensais au Tucson ou Sportage. Je garde mes voitures 10 ans.
Ouais.
Est-ce que le Forester est de meilleure qualité un peu plus tard? Mais c'est vrai que la peinture avec les 2019, c'est plus
vraiment
rarissime.
Oui. Puis je suis surpris quand même d'entendre ça. Mais d'un autre côté, ça ne me surprend pas parce que les véhicules Subaru, dans leur ensemble, ont vraiment une très, très faible épaisseur de peinture. Donc, s'il y a un impact, etc., un impact de roche, ça fait lever la peinture. Puis là, la rouille s'installe, puis c'est parti. Tucson, Sportage, des bons produits. C'est deux jumeaux. Donc, même architecture, même motorisation. On prend celui qu'on aime le plus entre les deux. Il n'y a pas d'avantage vraiment à prendre un et l'autre. Puis ou
en
l'autre.
En termes de fourchette de prix, mettons ouais. Forester, Sportage, puis Tucson, ça ressemble à quoi?
Ça se ressemble pas mal. Un Sportage d'entrée de gamme va être autour de 34-35 000. 4 roues motrices, modèle Helix. Un Forester, c'est autour de 36, le moteur, le modèle d'entrée de gamme, 4 roues motrices aussi. Il y a plusieurs options. Là, si vous voulez plus équipé, il y en a jusqu'à 50, 52 000 là, facilement. Mais plusieurs choix des deux côtés. Tucson, Sportage, des bons produits, mais j'entendais 10 ans, on veut garder le véhicule longtemps. Moi, j'ai toujours tendance à envoyer les gens vers un Honda CR-V, un Toyota RAV4, peut-être un peu plus cher, mais extrêmement durable, très fiable. Et à la fin, quand vous allez le revendre, bien, la valeur de revente va être à côté au plafond. Donc, on récupère quand même une partie de notre investissement, même si le véhicule est plus cher au départ.
Merci, Samuel.
Grand plaisir.
Toujours trop vite.
Ben oui, ça va tout le temps.
J'avais dit deux questions, mais une sous-question.
C'est ça.
Là, je ne sais pas quand on se reparle, mais en tout cas, on se dit...
À la prochaine.
À la prochaine,
ouais,
c'est ça.
Toujours
merci.
Un plaisir.
Merci.
Le retour de Radio X.
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.